Monsieur Leblanc, bonjour. Expliquez-nous comment votre mouvement Itinérance Zéro est créé et qu'est-ce que vous faites comme activité?
Itinérance Zéro a été fondée en décembre 2013. Itinérance Zéro, c'est un mouvement pour venir en aide aux gens qui vivent une situation d'itinérance, qui n'ont aucune place où habiter, là. Au départ, je l'ai fait juste personnel comme ça. J'apportais des cafés, des bains, j'osais avec eux autres pour comprendre leur réalité, pour voir avec ce que moi j'ai mes ressources, si je pouvais les aider, etc. À un moment donné, la demande devenait trop grande au niveau ressources, donc j'ai créé une page Facebook que j'ai nommée Itinérance Zéro. À partir de là, les gens ont commencé à être membres de ma page, on faisait des demandes, les gens pouvaient contribuer, puis à partir de là, ben la beauté de la chose, c'est que c'est devenu un mouvement citoyen. Un mouvement citoyen qui s'est tenu à travers les années, toujours en ayant de nouveaux membres, de gens qui soient soit retraités ou en arrêt de travail ou qu'importe. Ils pouvaient donner de leur temps pour une cause qui leur tient à cœur. À partir de là, on a fait l'acquisition d'un motorisé, ce qu'on appelle un Winnebago. Puis à partir de là, on a commencé à servir des repas à la rue. Parce qu'au début, on le faisait, mais dans le cours du GTMI. C'est là que ça a pas mal commencé. Puis après ça, on a commencé à servir des repas. Ça allait bien, on servait 10, 15, 20 repas. Quand on avait des demandes pour des bottes ou des mitaines ou des bas, on faisait une demande sur Facebook, ça allait bien, les gens répondaient bien. Malheureusement, le groupe a pris de l'ampleur parce que la demande était là. Itinérance Zéro avait de la misère à répondre aux demandes, etc., etc. Puis là, ben, c'est devenu de plus en plus gros. On demandait plus d'aide, mais en date d'aujourd'hui, Itinérance Zéro dessert maintenant entre 5 et 600 repas par semaine à la base d'un mouvement citoyen. Ça veut dire que les gens sont pas payés pour cuisiner, rien de ça, c'est tous bénévoles. C'est un geste de cœur, en fait, c'est un geste de bonne foi. Puis rendu, c'est là, à ce jour, on a ça, on donne des vêtements, des bottes, des sacs de couchage, des tentes. On a deux travailleurs de rue, qui est moi, Benoît Leblanc. On a Cédric Auger aussi, là, qui fait le travail de rue. C'est pas mal où est-ce qu'on est rendu.
Pourquoi vous vous êtes dit il faut que je fasse ça? Est-ce que vous aviez des proches qui étaient en difficulté ou est-ce que pendant votre enfance vous avez connu des itinérants? Comment cette idée philanthrope-là vous est traversée l'esprit?
La réponse risque de vous surprendre parce que non, contrairement à ce que tous les gens croient, je n'ai pas eu de famille à la rue. J'ai eu un ami qui était à la rue il y a très longtemps, là. Lui était parti à Montréal pour réussir sa vie, en restauration, ces choses-là, c'était difficile. Il est tombé sans abri, mais à l'époque, on n'avait pas les médias sociaux comme aujourd'hui. Donc, Jean-François qui s'appelait. Jean-François, c'était un ami d'enfance auquel je tenais beaucoup. Mais tu sais, à l'époque même, faire des téléphones entre régions coûtait quand même des sous, puis c'est pas une chose qu'on faisait de façon régulière à l'époque. Donc, lui était à Montréal, il a assez tiré son épingle du jeu, il est tombé dans la consommation. Après ça, il est tombé, pour payer sa consommation, ben dans la prostitution molle. Puis là, à un moment donné, il s'est levé une bonne journée, puis il s'est réveillé, puis il a dit, écoute, j'essaye, je suis plus capable. La seule solution qu'il a trouvée, Jean-François, c'est de s'enlever la vie. Il s'est pendu dans le carré Jarry à Montréal. J'avais toujours dit un jour, je vais faire quelque chose pour aider ces personnes-là, parce que Jean-François, il y en a partout, là, dans toutes les villes, il y en a. Puis là, ça m'avait parti de l'idée, pour être honnête, parce que ça faisait une vingtaine d'années et plus que c'était arrivé. Moi, j'ai commencé à un moment donné à souffrir de ce qu'on appelle des crises d'angoisse, des crises paniques. J'avais de la difficulté à partir de chez nous, je faisais des crises d'angoisse. T'as toujours l'impression que tu fais une crise cardiaque. Puis à un moment donné, j'étais sur le point de tout perdre parce que je devenais complètement inefficace. Je pouvais plus travailler comme les gens normaux. Il n'y a plus rien qui fonctionnait. Donc, je me suis tanné. Au mois de décembre 2013, j'ai fait mes préparatifs. J'ai tenté de m'enlever la vie. Il y a un passant qui est passé à mon véhicule. C'est un endroit qui n'était pas très passant. Là. Tu sais, je l'avais fait par asphyxie dans le véhicule, mais j'entrerai pas dans les détails du comment pour ne pas donner des idées à d'autres. Mais c'est un passant par là, puis il a juste brisé la fenêtre. Il a éteint le véhicule, il a fait le 911, je me suis ramassé à l'hôpital. J'étais là quelques jours pour une intoxication. Tu sais, c'est sûr que côté pulmonaire, j'en avais encaissé beaucoup. Là. Puis un suivi aussi en psychiatrie, à savoir pourquoi j'ai essayé de m'enlever la vie. Là, je disais, j'ai plus de vie. Les crises d'angoisse, les crises paniques, c'est le cancer de l'ombre, puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas de façon de sortir de là, puis je me suis juste tanné d'avancer, de faire des efforts pour avancer, puis je fais juste reculer, je vois pas le bout. Le temps que j'ai été à l'hôpital, C'est là que ça a déclenché le plus. Parce qu'il y a une personne qui était dans le lit à côté de moi, puis tu sais, là, t'es là quelques jours ensemble. Là, fait que tu dis, ah oui, OK, là, tu parles de ta vie, de tout ça. La personne avait essayé de se suicider aussi. Puis là, j'ai dit, ben pourquoi? Il me dit, ironiquement, là, il dit, moi, je souffre de crise d'angoisse et de troubles paniques. J'ai tout perdu avec ça. J'ai perdu ma maison, ma femme, j'ai plus rien. Je reste à la rue, je suis sans abri. Je viens même pas à bout de me trouver un endroit où rester, il commence à faire froid. Fait que j'ai décidé d'arrêter ça là, j'ai décidé de mettre fin à mes jours, puis de me suicider. Mais lui, ça avait pris quelques jours pour que je puisse y parler, parce qu'il était sur médication très forte, parce que lui, il avait tenté de s'ouvrir les veines de la main gauche. Puis les temps que j'étais là, t'as du temps pour réfléchir, etc. Puis là, je me disais, Colin, il y a des gens qui vivent la même chose que moi, qui sont à la rue sans ressources, qui ont rien. Là, je me suis rappelé soudainement. Hey, c'est comme mon ami JF qui s'est suicidé. Il n'y avait pas d'autre option. Il n'en voyait pas. Donc, c'est là que ça m'a ramené ce que j'avais dit 20 ans plus tôt, qu'un jour, je vais essayer de faire quelque chose pour ces gens-là. À partir de là, quand je suis sorti, le 13 décembre 2013, quand je suis sorti, j'ai décidé que j'allais finir mes crises paniques, que j'allais vaincre mon mal à moi, puis que j'étais pour aller vers ces personnes-là. Pour cibler ceux qui ont des problématiques similaires, puis de lui donner un coup de main à sortir de ce pattern-là, là, de mal de vivre, de mal-être. Donc, c'est comme ça, en fait. Mais tu sais, en date d'aujourd'hui, 7 ans plus tard, on est 5600 quelques membres, on donne 600 repas à la rue. On a 2 motorisés, un qui s'en va en travail de rue, plus ciblé dans des secteurs plus difficiles. Je donne des conférences sur l'intimidation et les gangs de rue dans les écoles. C'est toutes des choses. Mais j'ai aucun mérite pour ce que j'ai fait, parce que c'est un chemin de vie qui s'est fait seul. Tout le monde aurait pu parcourir exactement le même chemin. Il suffisait seulement que juste de s'ouvrir les yeux puis décider d'agir. C'est un message aussi en même temps qui dit aux gens, ben quand tu vois de la misère humaine, si tu agis, si tu demandes du support puis tu agis, mais il faut que tu t'oublies dans ça. Parce que si tu fais un geste pour te sortir toi, ça devient de l'égoïsme pur et dur, puis ça mérite pas. Ça mérite pas de monter plus haut. Mais quand tu t'oublies totalement, puis que ta mission focus seulement sur les gens de la rue, habituellement, le retour est bon.
En 2019, c'est-à-dire l'année dernière, vous avez servi 17 904 plats. Et cette année, malgré les conditions difficiles de la COVID-19, vous êtes déjà à 13 120 plats. Est-ce que vous pensez pouvoir atteindre les chiffres de l'année dernière cette année ou pas? Et aussi, on veut savoir quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées à cause de la crise sanitaire, étant donné qu'il fallait réduire les contacts et pourtant les personnes auxquelles vous venez en aide sont des gens qui sont dans la rue. Comment vous avez pu travailler dans ces conditions?
À savoir si on va battre les chiffres de l'an passé ou pas, c'est pas un enjeu qui est important pour moi. Idéalement, moins qu'on en sert, mieux que c'est. Dans le sens que la pauvreté et le besoin seraient moins présents. Là, il y a une recrudescence de demande avec le COVID, parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur travail, etc. Donc oui, là, présentement, les chiffres explosent. Puis pour décembre, ça va continuer d'exploser, janvier, février aussi. Tant et si longtemps qu'on ne sera pas sorti de la crise sanitaire qui est du COVID. Pour nous, la seule problématique que le COVID a apporté, c'est le nombre de personnes et de familles qui viennent à la caravane. Parce que tu sais, il applique pour la PCU, il y a des délais. Tu sais, il travaille en restauration, donc là, la personne ne peut pas travailler, ces choses-là. Nous sommes en train de pallier un besoin alimentaire qui est de la population autre que l'itinérance. Puis moi, comme je dis depuis le début, je ferai pas d'enquête à savoir la personne, tu sais, c'est quoi ton nom, faut que tu t'enregistres. Puis on veut pas le savoir, là, non, on veut rien. Si la personne est debout dans ma porte, puis il demande un repas, il va partir avec un repas. Même si la personne, écoute, on l'a vu là à travers le temps et les années, des personnes qui sont arrivées avec un véhicule pas très vieux, un véhicule moyennement luxueux, ils étaient bien vêtus, etc. Ils sont venus chercher 3-4 repas. Ils ont fait ça une semaine, 2 semaines. On les a jamais revus, ils sont redisparus comme ils sont arrivés. Mais la stigmatisation, puis toute l'image qu'on donne souvent aux personnes qui sont dans le besoin. Tu sais, le monsieur avec le véhicule de luxe, il est bien habillé. Peut-être qu'il y avait un job important qu'il a perdu, puis au lieu de que ses enfants, ou lui ou sa femme, ou même s'il est seul, c'est pas grave. Et au lieu que la personne ait faim puis ait plusieurs combats à mener en même temps, si je peux la nourrir le temps qu'elle se replace, ben, ça fait aussi partie de notre mandat. On n'en regarde pas la personne, puis on ne pose pas de questions. C'est sûr qu'on finit par savoir, parce que les gens partagent, les gens... Si on écoute, on offre une écoute active, donc les gens vont partager les situations qu'ils vivent. Puis souvent, les gens sentent le besoin de justifier pourquoi ils viennent chez des repas. Mais le message qu'on peut lancer, c'est il n'y a personne qui vous demande de justifier le pourquoi. C'est un geste qui est fait du cœur et de bonne foi. Donc, nous autres, si ça t'aide, c'est correct. Tu te replaces, on va être les premiers heureux. Si tu te replaces pas, ben on te le critiquera pas, puis on te le rejettera pas au visage là, à chaque deux semaines ou chaque jour quand tu vas passer. Donc, le défi COVID, pour nous, a été juste l'augmentation. Parce que dans les cuisines, on a une cuisine qui répond aux normes de la MAPAC. Je pense que c'est très rare là, dans le communautaire de mouvement citoyen, je parle. Là. On a une cuisine qui répond aux normes de MAPAC. À partir de là, Mme Stocker, qui est en charge de la cuisine, ben elle a pris des mesures immédiates, que ce soit purelle, masque, gants, ventilation, etc. Tous les normes ont été rencontrés, écoute, en dedans de quelques heures ou quelques jours. Donc, à partir de là, au niveau de la distribution, on a dû enlever un bénévole à cause de la grandeur du Winnebago à l'intérieur. On a dû enlever un bénévole seulement pour la distribution. Puis les autres, ben, ils ont accès à des masques, des gants, le Purel, on a eu des visières, il y a eu un paquet de trucs. Donc, la COVID nous a pas beaucoup affecté niveau qualité de service, mis à part en travail de rue, où est-ce que je trouve ça un petit peu difficile d'être en face d'un homme qui pleure sa vie, puis qui crie à l'aide, de demeurer à 2 mètres, de garder son masque, puis de pas parler vers moi. Cette partie-là est venue briser le cœur plus en travail de rue. Est-ce qu'on demeure efficace quand même? Oui, mais involontairement, l'intervention n'est pas parfaite parce que le côté humain, le ressenti de la personne du côté humain de l'intervention, ben parfois il semble moins présent. Mais c'est parce que c'est de santé publique, c'est pas un choix que le travailleur de rue a fait de rester distant. Là.
Comment vous procédez à la distribution des nourritures? Est-ce que vous donnez un point de rencontre fixe où tout le monde vient avec ses repas et ensuite vous partez à la rencontre des itinérants pour leur offrir ses plats? Comment ça s'organise tout ça? Et parmi nos auditeurs qui nous écoutent, s'il y a des gens qui veulent se joindre à vous, par quels moyens ils doivent procéder?
La façon de faire pour les repas, on a des cuisines, on est membre de Moisson Outaouais. Tous les vendredis, on va chercher des denrées que Moisson Outaouais nous donne. Heureusement, c'est ainsi, on peut répondre à la demande avec ce que Moisson donne, principalement. Parce que généralement, le manque de viande est criant, donc on va partir. Il y a des bénévoles pour compléter des plats qui vont payer de leur poche un ingrédient qui manque, que ce soit des épices, que ce soit la viande, que ce soit ces choses-là. Heureusement, depuis quelques mois, on a des bénévoles n'ont plus à puiser dans leur poche pour ça. C'est cuisiné dans notre cuisine qui est à Hall sur la rue Prévost. Là, la caravane arrive dans l'aréna de l'aréna Robert-Gartin, entre l'aréna et la polyvalente de Lille. Elle arrive là à 18h30. À partir de là, les repas arrivent à 18h30 à la caravane. On procède à une mise en assiette avec les bénévoles à l'intérieur de la caravane. À partir de là, on part puis on a un parcours qu'on étudie avec les amis puis qu'on modifie selon les besoins. On a un parcours où est-ce que quand on arrête, les gens savent qu'on est là dans ces heures approximatives-là. Donc, ils nous attendent déjà dans les points de repos. Si on peut appeler ça comme ça, là. Il y a des personnes qui ont un peu plus de difficultés, mais qui se sont placées quand même en appartement. On va arrêter devant chez eux. Puis, à partir de là, la personne vient chercher ses repas à la caravane, puis elle retourne à l'intérieur chez elle. C'est comme ça que notre distribution à Hall fonctionne. Dans le secteur Notre-Dame, étant beaucoup plus petit, ce qu'on a fait depuis le début, depuis quelques années déjà, il y a un marché, genre quelque chose communautaire, là, super le fun. Là. Dans notre région, ils appellent ça le marché Notre-Dame. Au marché Notre-Dame, on se stationne là. Puis les gens viennent à la caravane. C'est à Notre-Dame, nous sommes fixes sur place. Donc, les repas arrivent à la caravane, on fait la mise en assiette. Puis jusqu'à 22h le soir, les gens viennent à la caravane pour venir chercher des repas. Et des chandelles pour réchauffer les tentes, ces choses-là, pour pouvoir tenir là, jusqu'à la prochaine distribution.
Madame Hélène Rabitaille a passé une année à tricoter des tucs pour que vous puissiez les distribuer aux itinérants. Est-ce que vous avez beaucoup de gens comme elle qui prennent du temps pour créer, sinon garder des objets que vous donnez par la suite aux itinérants?
Heureusement, oui. Oui, on a la résidence Shortwell, où est-ce que les résidents là-bas, c'est un centre de résidence pour personnes âgées. Il y a un groupe de tricoteuses là-bas qui tricotent deux fois semaine, qui se rencontrent deux fois semaine, puis qui jasent. Ça lui fait briser l'isolement social. Puis à partir de là, ils ont décidé d'offrir toutes leurs créations, tuques et mitaines, à Itinérant Zéro. Pour l'instant, les tuques, on en a amplement. Donc, ils sont venus pallier une carence qu'on avait là, au niveau des tuques, mitaines et choses tricotées. Donc, oui, c'est la beauté d'un mouvement citoyen, c'est qu'on a aussi l'occasion de s'apercevoir de la bonté de la population. Parce que dans un mouvement citoyen, même en étant directeur, je ne suis pas le décideur final. C'est ensemble qu'on va prendre une décision. C'est ensemble qu'on va trouver des solutions. Donc, à partir de là, oui, on a la chance de voir la bonté des gens en 2020 est encore présente. Il suffit juste de le demander, puis de leur ouvrir la porte pour qu'ils puissent participer.